Nous sommes de retour à 7h27 à l'émission que l'Outaouais se lève. Il y a un regroupement, puis là, on ne parle pas de 3-4, 800 médecins qui demandent de décentraliser les décisions dans le domaine de la santé. Ça veut dire qu'on voudrait que Québec décide moins pour les régions, si je comprends bien. Mais pour mieux comprendre, avec nous pour en parler, les vice-présidents du regroupement québécois des médecins pour la décentralisation, Dr. Isabelle Lepage. Bonjour, Dr. Lepage.
Bonjour, M. Langevin.
Merci d'être là ce matin. Écoutez, l'Outaouais, c'est une région où est-ce qu'on subit le système de santé. C'est pas facile pour toutes sortes de raisons qu'on essaye de comprendre depuis des décennies et ça demeure toujours très difficile. Vous proposez ou vous réclamez la décentralisation. C'est quoi ça, oui, la décentralisation?
Bien, en fait, la décentralisation, c'est ramener un peu plus de gouvernance locale dans nos hôpitaux. Actuellement, là, on a un système qui est centralisé, puis une tendance à la centralisation là, depuis des années, puis qui s'était vraiment concrétisé avec la réforme de 2015. Donc, on a perdu les directions dans nos hôpitaux. On n'a plus de directeur général, puis on n'a plus de directeur de services professionnels, donc de directeur médical dans nos hôpitaux. Et nos hôpitaux sont donc gérés à distance. Il y a une équipe de gestion qui gère plusieurs hôpitaux via le LICIS ou LICIUS. Dans votre région, le CIS de l'Outaouais, là, ça compte 7 hôpitaux, 15 CHSLD, 19 CLSC et d'autres aussi établissements là, qui sont connexes là, dans la communauté. Donc, ce sont des mégastructures qui sont gérées par une équipe centralisée. Fait que nécessairement, là, les 7 hôpitaux n'ont pas un directeur. Là, il y a une équipe pour ces 7 hôpitaux-là. Et ça crée malheureusement là, beaucoup de problèmes. On se rend compte que cette centralisation-là, ça amène une perte d'efficacité, une énorme lourdeur administrative, des décisions qui sont moins adaptées à chaque milieu, puisqu'ils sont prises de façon centralisée par des gens qui ne travaillent pas dans ces milieux-là. Une perte de services de proximité, là, puis c'est vraiment ça qui est le grand malheur, finalement, là, pour les patients dans ce système-là, parce qu'on se rend compte que dans les dernières années, il y a une délocalisation des services. Puis ce que ça veut dire, ça, c'est qu'on n'est plus capable d'avoir accès à des services dans notre hôpital ou dans notre communauté. Puis on doit de plus en plus, comme patient, là, se déplacer pour aller avoir accès à des services. Puis des services qui sont franchement de base, hein, comme pouvoir accoucher dans notre hôpital, pouvoir avoir accès avec un spécialiste en clinique externe, pouvoir avoir accès à des examens de radiologie là, à proximité de chez nous dans notre hôpital. Et puis, pour les médecins, l'accès à, par exemple, des examens de laboratoire rapidement pour nos patients. Ça, c'est des exemples de services qui se perdent progressivement dans les milieux. Puis, puis on se rend compte là, que ça, c'est assez universel à travers la province là, quand on discute avec les gens. Et c'est vécu partout de façon un petit peu différente dans chaque milieu parce qu'on a tous des besoins différents, bien sûr, mais ça s'en vient un problème assez généralisé.
Mais là, Dr. Lepage, je vous écoute, puis j'aimerais ça que ce soit vrai tout ce que vous nous dites, là, que ça puisse fonctionner mieux une fois qu'on aurait donné des pouvoirs décisionnels dans les régions. Nous, on vient de nous annoncer là, un méga hôpital qu'on va construire de, je sais pas dans combien d'années, là, avec 600 lits. Je vous écoute, c'est un petit peu le contraire, c'est qu'on met tout ça à la même place, puis on centralise davantage, on centralise à même la région avant d'après ça centraliser le pouvoir à Québec. Est-ce qu'on s'en va sens contraire?
Bien, nous sommes convaincus que les soins de proximité, ça passe par la décentralisation. Donc, je vous dirais que c'est comme opinion plus générale, en effet, là, nous pensons que de centraliser est pas la meilleure tendance. Ceci étant dit, il y a quand même eu des avantages dans l'établissement des CIS et des CIUS. Il y a eu une régionalisation de l'offre de services puis de la planification de l'offre de services. Fait qu'on a regroupé par région les hôpitaux et les établissements. Puis, il y a un certain bénéfice, puis je vous donne un exemple, on a créé des corridors de services. Donc, si je suis dans un petit hôpital de région, puis j'ai besoin d'avoir accès à un médecin spécialisé, sur-spécialisé, de la neurochirurgie, de l'hémodynamie en cardiologie, dans votre région, là, ça serait un bel exemple. Les petits hôpitaux en région, ils n'ont pas des centres d'hémodynamie, puis ils ne pourraient pas supporter là, des services comme ça très spécialisés. Puis on a créé des corridors de services, donc ça permet d'avoir accès facilement à cette médecine spécialisée-là dans les centres universitaires ou les centres plus gros. Donc, il y a un bénéfice à cette planification-là par région. Donc, il est bon d'avoir certains méga hôpitaux où on va regrouper là, nos experts au Québec parce qu'on a des experts, puis on a une médecine spécialisée de haute qualité au Québec. Ces gens-là ont besoin là, des plateaux techniques particuliers. Donc on ne dit pas, tu sais, je ne connais pas bien l'exemple de votre région en détail, mais tu sais, ce centre-là, on est définitivement pas en train de dire que c'est pas une bonne idée de le construire ou d'offrir à votre population là, une médecine de haute qualité. Par contre, ceci étant dit, ça doit pas être aux dépens de préserver une médecine quotidienne puis des soins là, qu'on a besoin au jour le jour, à la semaine, dans nos régions. On souhaite définitivement là, que les patients puissent avoir accès à ces soins-là près de chez eux. Puis je crois que le gouvernement est sensible à ça. La problématique, c'est que notre système de santé est tellement gros, c'est tellement un grand monstre administratif que c'est difficile de s'y retrouver parfois. Comment est-ce qu'on peut trouver des solutions concrètes dans une machine qui est tellement énorme comme ça? Nous, sur le terrain, là, vous l'avez bien dit au début, on est 800 médecins, on provient de 62 hôpitaux de partout au Québec. Ce qu'on vit, comment on a vu le système se transformer dans les dernières années, là, on lève le drapeau, puis on est convaincu d'avoir retiré ces directions locales dans les hôpitaux, là, ça a vraiment créé des problèmes. Puis de ramener une direction, on va avoir une équipe qui va réfléchir sur place à comment mieux gérer son hôpital, comment mieux protéger ses services à la population, puis il va connaître vraiment les besoins de son hôpital, quels sont les enjeux spécifiques, comment est-ce qu'on peut trouver des solutions, puis on va regagner là, un dynamisme puis une agilité là, dans notre système.
Je vous entends, puis ça tient beaucoup la route. C'est très rafraîchissant d'entendre ça. Mais quand on a créé les CISO puis les CIS un peu partout à travers le Québec, là, ce que vous venez de dire là, c'était exactement la façon qu'ils ont vendu la création de ces organismes-là pour chapeauter les hôpitaux dans les régions. Eux autres, ils nous vendaient que la main gauche va maintenant parler avec la main droite puis qu'il va y avoir quelqu'un au sommet de la pyramide qui va coordonner tout ça. Alors que la réalité fait en sorte que, dans certains cas, on n'a pas eu de personnel pour permettre des accouchements à l'hôpital dans le Pontiac. On a des brisures de services en Haute-Gatineau, ça a été fréquent. On a des problématiques de personnel ici dans l'Outaouais urbain. Encore ce matin, dans le quotidien Le Droit, très bon texte de Justine Mercier qui nous apprend, qui nous dit qu'à la suite de la mort d'un individu, là, qu'il semble y avoir des problèmes, des problématiques physiques liées, des lacunes physiques, comment elle dit ça, des lacunes d'apparence systémique au CISO. C'est pas d'aujourd'hui qu'on dénonce ça, mais en même temps, j'ai de la misère à croire que si on décentralise, vous allez être capable d'attirer dans un hôpital plutôt que dans une région des spécialistes qui voudront bien venir y pratiquer. C'est ça l'enjeu, là.
Oui, vous avez raison. Puis je le vis dans mon hôpital. Moi, je travaille dans un petit hôpital de quartier à Montréal. Je travaille dans deux hôpitaux, mais notamment dans cet hôpital de quartier-là, qui est dans le fond comme une petite ville. Hein. Montréal, là, c'est une grande ville, mais il y a plein de petites villes à l'intérieur. Fait que ce que vous nommez, là, je le vis. Nous, on a une perte de service aux patients, mais on a aussi de la difficulté là, à bien s'organiser puis à recruter on a perdu des spécialistes dans les dernières années puis c'est une question de gestion, une question d'être capable de s'organiser localement. Si on doit demander à une équipe de direction qui est à l'extérieur dans un autre centre de nous supporter, nous, dans notre organisation des soins. Si à chaque fois, il faut demander à une équipe de direction délocalisée pour pouvoir mettre sur pied des initiatives, trouver des solutions, bien, ça ne fonctionne tout simplement pas. Puis, en fait, on perd là, un temps fou à simplement s'expliquer, à essayer de faire reconnaître c'est quoi nos besoins, à ce que l'équipe de direction comprenne. Puis, ça crée là, des délais puis des incohérences là, qui sont très problématiques. Puis là, on a pris une spirale, finalement, partout dans le réseau où il y a une certaine désorganisation, puis ça mène à des difficultés ensuite là, de recrutement. Puis c'est peut-être abstrait, là, toutes ces questions-là de structure, mais tu sais, je pense qu'on peut dire là, plus concrètement que n'importe quelle organisation, pour bien fonctionner, a besoin d'une direction. On a parlé des CHSLD lors de la première vague qui n'avaient pas de directeur, puis comment est-ce qu'ils ont eu de la difficulté à s'organiser, puis ça a contribué là, à l'ampleur de la première vague puis aux morts qu'on a eues. Ils ont rajouté, Québec a rajouté un directeur dans chaque CHSLD. C'est un petit peu le même principe. Puis les entrepreneurs vont m'entendre et vont comprendre que une grande entreprise, parce qu'un hôpital, là, c'est pas juste une petite entreprise, mais même les petites et moyennes entreprises ont besoin d'une direction, d'un directeur qui décide, qui fait les bons choix, qui prend les bonnes décisions. Sinon, c'est désorganisé puis ça ne fonctionne pas bien.
OK, ben écoutez, c'est intéressant.
Est-ce que je pourrais juste vous dire un petit dernier mot, mais je pense qu'on veut souligner aussi qu'il ne faut pas négliger aussi qu'il y a une démobilisation du personnel actuellement. Tu sais, les professionnels de la santé, là, les infirmières, les préposés, les employés là, de support dans les hôpitaux ont travaillé énormément fort, puis il y a une pénurie de personnel, puis ça contribue, cette centralisation-là, cette déconnexion-là entre la gestion et puis les travailleurs de la santé, là, ça contribue aussi un peu à la morosité puis à la démobilisation du personnel actuellement. Puis je pense qu'ils ont besoin aussi, eux autres, d'avoir un support là, sur le terrain pour les aider à travailler.
Bonne démarche.
Enfin, plus avec moins.
C'est une bonne démarche. J'ai hâte de voir les conclusions, si vous allez réussir à convaincre les gens d'aller en cette direction-là. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous expliquer votre point de vue là-dessus, Dr. Lepage.
Merci pour votre temps.
Merci beaucoup.
Merci, M. Langevin.
Au revoir. Docteur Isabelle Lepage, c'est de la théorie, c'est de la rhétorique. Là. Ça fait du bon sens. Mais ça faisait du bon sens aussi quand ils ont créé, on a chapeauté les hôpitaux partout au Québec, comme on le fait maintenant avec aussi les commissions scolaires. On verra bien les résultats de tout ça. Pas sûr que ça va être bien, bien mieux. 7h39. Dans quelques instants, on va parler de passeport vaccinal. Le Parti libéral du Québec demande au gouvernement d'élargir la vaccination obligatoire. Restez là.